Voici la preuve que l'un des kamikazes du Stade de France s'est bien fait passer pour un migrant en demande d'asile. Aux autorités grecques, il a présenté ce faux passeport syrien avec une photo qui est bien la sienne, mais son nom, sa date de naissance, tout est faux. Des terroristes qui se mêlent aux milliers de migrants pour entrer en Europe, les autorités savaient que le risque existait.
Les autorités savaient que le risque était bien réel. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Mathieu.
Eh bien justement, vous avez enquêté sur cette menace, vous avez tenté de comprendre comment des djihadistes ont réussi ainsi à se mêler à des réfugiés pour rentrer en Europe. Alors bien sûr, on le sait, il s'agit d'une question très sensible. Les arrière-pensées politiques ne sont jamais loin. C'est pourquoi on a choisi de retenir les faits, rien que les faits. D'où ma première question, Élodie Guéguin. Comment ces terroristes ont réussi ainsi à déjouer tous les contrôles?
Alors déjà Mathieu, pour comprendre, commençons par le début. Ce passeport utilisé par l'un des terroristes du 13 novembre, celui dont on parlait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est ce que l'on appelle un vrai faux passeport. Alors il faut être très précis, pourquoi parle-t-on de vrai faux? Parce qu'au départ, il s'agit d'un document administratif authentique, mais dans un deuxième temps, une fausse identité a été inscrite dessus.
Ce qui m'amène à ma deuxième question, comment les terroristes peuvent-ils se procurer des documents administratifs syriens qui sont donc authentiques?
Eh bien, il y a deux cas de figure. Il y a d'abord des documents récupérés sur des cadavres de civils ou de soldats de l'armée syrienne. Mais ça, c'est une part minime du stock que s'est constitué l'État islamique. Un stock colossal, une réserve de plusieurs milliers de passeports. En fait, la très grande majorité de ces documents ont été volés alors qu'ils étaient encore vierges, comme le raconte Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement.
Quand Daesh et Al-Qaïda ont conquis des régions entières, ils sont tombés sur des centres administratifs où il y avait non seulement des passeports vierges, mais également les machines nécessaires à remplir ces vrais faux papiers. Donc il suffisait de mettre une photo d'un individu, d'inscrire l'identité choisie, et le terroriste en puissance avait donc des papiers qui étaient plus vrais que nature et pouvait les utiliser et franchir toutes les frontières à sa guise.
Ce vol de documents administratifs par l'État islamique, est-ce que les services de renseignement occidentaux, français ou américains, en ont été alertés?
Oui, mais il leur a fallu de très longs mois avant de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Ils ne pensaient pas que l'État islamique s'était accaparé un tel stock de passeports syriens et donc avait pu fabriquer un si grand nombre de vrais faux documents. C'est en tout cas ce que reconnaissent les autorités américaines. Je vous propose d'écouter un extrait tiré du rapport publié le 2 décembre aux États-Unis par le Homeland Security Investigations. Les services secrets admettent, dans cet extrait lu par Laetitia Saavedra, ils admettent qu'ils sont complètement passés à côté de cette menace.
Il s'est passé 17 mois depuis que des villes comme Raqqa et Deir ez-Zor sont passées sous le contrôle de l'État islamique. Il est donc possible que des individus venant de Syrie avec des passeports volés et vierges aient voyagé vers les États-Unis. Si nous n'arrivons pas à contrôler la capacité qu'a l'État islamique de fabriquer des passeports, ces opérations continueront à se développer et il réussira à s'exporter au-delà des zones qu'il contrôle actuellement.
De vrais faux passeports pour terroristes donc, mais pas uniquement, car son stock de documents d'identité, Daesh en tire également profit.
Oui, comme pour le pétrole ou les œuvres d'art, la revente de passeports serait devenue une sorte de commerce illicite. C'est en tout cas l'hypothèse avancée par le ministre de l'Intérieur lui-même. Bernard Cazeneuve a adressé il y a quelques semaines une lettre à ses homologues européens pour les mettre en garde contre ce risque. Lettre dont voici un passage.
Selon plusieurs services de renseignement européens, ces milliers de passeports vierges volés par Daesh en Syrie, en Irak, voire en Libye, se trouveraient désormais en Turquie et y feraient l'objet de trafic sophistiqué après avoir été personnalisés et revendus sur place. Ce trafic de documents volés constitue une source de financement non négligeable pour le groupe terroriste.
Ces passeports qui sont ainsi revendus au marché noir en Turquie, ils sont achetés par qui, Élodie ?
Alors il y a d'abord les Syriens qui fuient les combats mais qui n'ont jamais eu de passeport et qui en ont besoin pour circuler. Et puis il y a aussi tous les autres, les migrants économiques qui cherchent à se faire passer pour des Syriens car ils savent qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la meilleure façon d'obtenir un statut de réfugié politique. Toujours est-il, Mathieu, que ce trafic de passeports est une aubaine pour les mafias turques, nous raconte ce journaliste syrien réfugié en Turquie.
Il y a plein de marchés pour le trafic de faux passeports, surtout dans les zones près de la frontière, dans les provinces de Kilis et d'Antakya. Tu peux demander un passeport, tu choisis le nom que tu veux, les informations que tu veux, ils te font le passeport de ton choix. Il faut que tu payes entre 1000 et 2000 dollars. Et si tu vas sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, tu vas trouver plein de groupes pour cela.
Obtenir une fausse identité, c'est donc très simple, ça on l'a bien compris. Deuxième étape maintenant, comment les hommes de Daesh s'y prennent-ils pour pénétrer en Europe et bien sûr sans se faire repérer?
Alors c'est bien pour cela que l'organisation terroriste a élaboré plusieurs scénarios. L'un d'entre eux consiste à emprunter les routes migratoires, monter dans un bateau avec des réfugiés. Il y a quelques mois encore, ce scénario était jugé peu crédible par les experts, tant les voyages sur des embarcations de fortune sont périlleux. Mais depuis les attentats du 13 novembre, on sait que Daesh a utilisé ce stratagème pour faire voyager ses combattants, puisqu'au moins deux des kamikazes du Stade de France sont entrés en Europe en se mêlant à des réfugiés.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le déroulé très précis du voyage de ces deux terroristes ?
Oui, ils ont débarqué le 3 octobre sur la petite île grecque de Léros. Ils sont passés par le hotspot, c'est-à-dire le centre d'enregistrement des migrants installés sur l'île. Et les terroristes ont présenté leur vrai faux passeport syrien.
Et les gardes frontières grecques n'y ont vu que du feu ?
Oui, parce qu'il faut dire aussi que sur ces îles, les contrôles d'identité sont des plus sommaires. On jette un coup d'œil au passeport, on relève les empreintes du réfugié, on le prend en photo et puis généralement ça ne va pas plus loin.
Ça ne va pas plus loin, sauf qu'un douanier, même grec et même débordé, il doit consulter des fichiers de police.
Oui, mais pour cela, il faudrait qu'ils aient les moyens de se connecter à une base de données. Or, selon Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, l'agence européenne chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Union, sur ces îles, on est souvent coupé du monde.
Là, vous n'êtes pas dans un aéroport, vous pouvez faire les contrôles avec toutes les connexions Internet, les équipements. Vous êtes dans un lieu de fortune, avec des difficultés de connexion Internet, de réseau, où vous devez essayer de faire au mieux.
Alors parfois Internet ça ne marche pas, mais il y a aussi des fois où ça marche. D'où ma troisième question que je vais poser cette fois-ci à Angélique Kourounis, notre correspondante en Grèce. Angélique, selon ce que vous en avez vu, est-ce que les gardes frontières grecques essayent au moins d'interroger les bases de données européennes ?
Bien, je ne pense pas qu'ils aient le temps de consulter ces fichiers quand ils procèdent aux vérifications. Il faut quand même se remettre un peu dans la situation, c'est-à-dire qu'il y a, rien qu'à l'île de Lesbos, environ entre 1500 et 3000 arrivées par jour, et vous en avez au moins 1500 à 2000 sur les autres îles, donc 5000 arrivées par jour. Donc je ne sais pas s'ils ont vraiment le temps de consulter ces fichiers. Ce que je sais en revanche, parce que plusieurs officiers me l'ont dit, c'est que ces fichiers ne communiquent pas entre eux. Donc si on a un numéro d'un passeport qui est, on va dire, suspect, dans un autre fichier européen, eh bien quand on le passe dans la machine, il n'y a pas une bande rouge qui fait tilt. Cette bande rouge fera tilt que si le policier grec prend ce numéro, va dans une base de données auquel il a accès, parce que tout le monde n'a pas accès à ces bases de données, pour vérifier si ce numéro est bon. Donc il y a une aberration, c'est que tous ces fichiers qui existent ne communiquent pas entre eux et ne sont pas reliés automatiquement.
Merci beaucoup Angélique Kourounis. Je me retourne de nouveau vers vous Élodie. Angélique nous parlait à l'instant d'aberration. Il n'existe pas un fichier centralisé qui serait quand même commun à tous les pays européens ?
Si Mathieu, le fichier d'information Schengen, il existe, mais pour pouvoir consulter ce fichier de manière systématique, il faudrait que les Grecs installent des terminaux dans tous leurs centres d'enregistrement. Or, ces équipements coûtent très cher.
Alors on peut comprendre que la Grèce refuse de payer seule la facture. Cela dit, la Grèce, elle est quand même aidée par l'Union européenne. Il y a, on peut le rappeler, 700 agents de Frontex qui sont déployés sur ces îles.
Oui, et d'ailleurs, le patron de Frontex, Fabrice Leggeri, serait prêt à installer ses équipements sur les îles. Mais écoutez bien ce qu'il nous dit, ça paraît complètement aberrant.
Il y a des déploiements d'équipements qui ont été demandés par les autorités grecques. J'aurai la ressource budgétaire. Ce n'est pas un sujet. Malheureusement, moi je ne vois pas comment l'agence Frontex peut acheter des terminaux du système information Schengen pour les déployer en Grèce, puisque l'agence Frontex n'a pas le droit de consulter le SIS, qui est le système d'information Schengen, donc le fichier consolidé de toutes les polices de Schengen.
Vous êtes en train de nous dire que les agents de Frontex, dans ces îles, n'ont pas accès aux bases de données ?
Absolument, parce que cela a été refusé à Frontex par le législateur européen dans la dernière décennie. Donc il y a une dizaine d'années, voilà le genre de décisions qui ont été prises.
Et on paye donc aujourd'hui les conséquences de ces décisions. Cela dit, il n'y a pas que la Grèce. Ces migrants, ensuite, quand ils se déplacent en Europe, dès qu'ils franchissent une frontière, ils sont enregistrés, là, non, Élodie ?
Oui, mais là encore, selon le patron de Frontex, l'Europe a laissé se développer une situation complètement ubuesque.
Un migrant qui est enregistré en Grèce, par exemple dans un hotspot à Lesbos, il faut qu'on puisse le retrouver dans la base européenne Eurodac s'il est relocalisé pour sa demande d'asile en France, en Allemagne, en Suède. Et là, malheureusement, je dois le dire, on n'a pas de solution technique européenne parce qu'on a voulu laisser à chaque État membre des solutions nationales. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a des systèmes techniques qui parfois ont du mal à fonctionner ensemble. Il y a une vraie question, c'est un peu, comme disent les dans le domaine de la finance, on parle de stress test. Je crois que l'espace Schengen et la gestion des frontières extérieures sont dans cette situation en grandeur réelle.
Et donc, résultat de ce test grandeur nature, un échec à peu près complet. Et le comble, c'est qu'il existe pourtant un outil efficace qui pourrait être utilisé à peu près partout.
Oui, et cet outil n'est pas simplement européen, il est mondial. Il a été créé par Interpol après les attentats du 11 septembre 2001. Il s'agit, selon Jean-Michel Brevet, commissaire à la police aux frontières, d'une gigantesque base de données où sont enregistrés les numéros de tous les passeports égarés ou dérobés.
Tous les documents de voyage qui ont été perdus ou volés doivent normalement être déclarés dans cette base. Et donc, grâce à cette interrogation, notamment en frontière, interrogation qui est faite automatiquement, on peut détecter des documents qui sont déclarés perdus ou volés.
On peut les détecter, nous explique ce commissaire. Cela dit, en ce qui concerne les passeports syriens utilisés par Daesh, on imagine que le régime syrien ne collabore pas forcément avec Interpol, non Élodie ?
Alors c'est exact, la Syrie joue moins le jeu que d'autres pays. Pour autant, le régime syrien a communiqué à Interpol les numéros de plus de 9400 passeports volés ces dernières années.
Alors là, on va s'arrêter une seconde. Vous n'allez tout de même pas me dire que les passeports utilisés par les terroristes qui ont frappé Paris en novembre étaient enregistrés en bonne et due forme comme volés ?
Eh bien si, selon nos informations, au moins un de ces passeports était connu d'Interpol. Le passeport utilisé par l'un des kamikazes du Stade de France, passeport dont la référence, je vais vous la citer, est le 00-777-39-37, référence enregistrée depuis le 16 avril 2015. Il était même précisé dans le fichier Interpol que ce passeport faisait partie d'un lot de 1452 documents volés par des terroristes dans un centre administratif de Raqqa en 2013.
Si je vous suis, Élodie, ça voudrait dire que si les Grecs avaient consulté ce fichier d'Interpol, ils auraient su qu'ils avaient face à eux un homme lié à Daesh, c'est bien ça ?
Eh bien, c'est fort possible. Alors, s'ils ne l'ont pas fait, c'est peut-être parce qu'ils sont débordés par un afflux de réfugiés, mais c'est aussi sans doute parce que certains pays européens n'ont pas pris l'habitude de consulter cette base documentaire, ce que regrette d'ailleurs profondément Michael O'Connell, l'un des responsables d'Interpol.
En fait,
tous les pays, les 190 pays membres d'Interpol, ont accès à cette base de renseignements. Et ce qui est toujours frustrant pour nous, c'est le manque de visibilité et de facilité d'accès à ces données depuis les postes frontières. C'est un point clé sur lequel ont insisté les ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Union européenne ces derniers mois. Et pas seulement pour faire face à la crise des migrants, mais d'une façon plus générale, pour donner aux policiers des outils pour contrôler plus efficacement ce qui se passe à nos frontières.
Alors à ce stade de votre enquête, le constat est assez affligeant. Les contrôles aux portes de l'Europe sont totalement défaillants. Mais il y a encore pire, si j'ose dire.
Oui, Mathieu, vous savez qu'une fois entrés en Europe, les réfugiés sont censés être contrôlés et enregistrés dès qu'ils franchissent une frontière. Eh bien, là encore, il y a des trous.
Et encore une fois, c'est l'enquête judiciaire sur les attentats du 13 novembre qui nous en apporte la preuve.
Les policiers français ont en effet cherché à retracer l'itinéraire européen du kamikaze enregistré sous le nom d'Ahmad al-Mohammad. La France a demandé aux pays de l'Union de transmettre leurs informations concernant les déplacements de cet homme. Eh bien, vous allez l'entendre, dans leur procès verbal, la conclusion des policiers est assez stupéfiante.
Nous remarquons une incohérence parmi les renseignements qui nous ont été transmis quant à la position du nommé Ahmad al-Mohammad. En effet, selon les autorités grecques, l'intéressé se trouvait encore sur leur sol le 8 octobre 2015, tandis que son nom était relevé en Serbie le 7 octobre et en Croatie le 8 octobre.
Alors là, on se résume, des contrôles aux frontières aléatoires, voire inefficaces, un système Schengen débordé, des fichiers qui existent mais qui ne sont pas consultés, tout ça dans un contexte de forte menace terroriste, ça semble à peine croyable. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Berlin. On imagine qu'en Allemagne, plus qu'ailleurs encore, l'identification des réfugiés, c'est un véritable casse-tête, non ?
Avec plus d'un million de migrants qui sont entrés dans le pays en 2015, on imagine l'ampleur de la tâche pour les autorités allemandes, d'autant plus qu'une grande partie de ces candidats à l'asile se présentent à la frontière sans le moindre papier d'identité. C'était le cas, par exemple, pour 77% d'entre eux au mois de janvier, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. Alors, ni passeport, ni carte d'identité, c'est parfois voulu de la part des migrants. Pourquoi ? Ben parce qu'ils savent que si leur demande d'asile est rejetée, l'Allemagne aura plus de mal à les renvoyer chez eux. Les autorités ont pris conscience du problème. Il faut se souvenir que jusqu'à la mi-septembre, il n'y avait pas de contrôle à la frontière. Ce n'est plus le cas. Il y a désormais une première identification, un premier filtre. Les empreintes digitales sont comparées avec le fichier européen Eurodac. Mais d'après l'Office fédéral des migrations, il y aurait en ce moment, tenez-vous bien, 400 000 migrants en Allemagne dont on ne sait pas qui ils sont ni d'où ils viennent. Un vrai cauchemar pour les services de sécurité. Le chef des services secrets allemands, Hans-Georg Maaßen, n'a aucun doute, il l'a dit récemment à la télévision ZDF, des djihadistes se dissimulent bel et bien parmi les réfugiés.
Merci Cyril Sauvageau. Élodie Guéguin, est-ce que les policiers français partagent les mêmes craintes que leurs homologues allemands ? Est-ce que pour eux, des djihadistes sont susceptibles de se cacher en France au milieu des migrants ?
Alors la question est sensible, hein, tellement sensible Mathieu, que la plupart des policiers que nous avons sollicités n'ont pas souhaité s'exprimer, en tout cas officiellement sur le sujet, mais en privé, ils reconnaissent que c'est leur hantise. Alors la DGSI, c'est-à-dire le renseignement intérieur, surveille de très près les camps de transit de migrants, notamment à travers la téléphonie. Il y a certainement des écoutes. En tout cas, au moindre doute, des vérifications ont lieu dans les camps, comme nous le révèle le policier Gilles Debove, délégué du syndicat SGP pour le port de Calais.
À la moindre information qui pourrait nous permettre de déjouer quoi que ce soit, hein, ou de la découverte de quoi que ce soit, il y a des perquisitions administratives qui sont menées dans le camp. Là, pour la dernière, c'était dans un restaurant afghan. Apparemment, c'était un ancien taliban qui tenait un commerce avec présence de Kalachnikov. La perquisition n'a rien donné, mais le mérite, c'est d'avoir levé le doute et de continuer les recherches.
Des djihadistes, hein, qui se mêlent aux réfugiés, c'est donc l'une des techniques de l'État islamique pour arriver incognito en Europe. Mais ce n'est pas la seule, Élodie.
Non, il existe d'autres routes, beaucoup plus rapides et beaucoup moins dangereuses, selon Alain Rodier du Centre français de recherche sur le renseignement.
On parle beaucoup, effectivement, des embarcations de fortune. On parle moins des jet skis qui rejoignent les îles grecques. Les passeurs embarquent une personne derrière elle et en jet ski, c'est d'une façon très sûre d'aller la déposer sur une île grecque. On parle moins des yachts qui ont été volés et qui servent pour embarquer un certain nombre d'individus, mais pas trop nombreux. Ces gens-là, bien sûr, payent extrêmement cher leur passage, mais arrivent d'une façon quasi-légale en Europe.
Et puis, il y a un autre scénario imaginé par Daesh pour envoyer des combattants en Europe, encore plus simple. Ils prennent l'avion.
Oui, et Daesh utilise un système plutôt rusé pour faire voyager ses combattants, presque incognito. On appelle ça la technique du look-alike, comme nous le résume dans une formule cinématographique Jean-Michel Brevet de la police aux frontières.
Pour reprendre le titre d'un film de Pierre Charnière, on se fait la gueule de l'autre, c'est la technique du look-alike. On récupère un passeport authentique et on essaye de passer avec celui-ci.
Très clairement, ça signifie qu'on prend le passeport de quelqu'un qui nous ressemble beaucoup et avec un peu de culot et d'aplomb, eh bien, on tente de berner les policiers à l'aéroport.
Du coup, précisons-le, là, il ne s'agit pas de passeport syrien. Les djihadistes doivent utiliser des passeports européens pour être discrets. Mais ils les trouvent où alors ces passeports européens ?
Alors lorsqu'un combattant décide de rejoindre l'État islamique, il faut savoir que dès son arrivée, on lui confisque ses papiers d'identité. Et donc, aujourd'hui, Daesh aurait une réserve de plusieurs centaines de passeports européens authentiques. Le passeport d'un Français pouvant servir à un Allemand, si les deux hommes se ressemblent, ou un Britannique fiché dans son pays pourrait utiliser le passeport d'un Français par exemple.
Est-ce qu'on a déjà rencontré de tels cas ?
Oui, encore l'été dernier, l'un des djihadistes français les plus Guéry a été arrêté à Prague, il rentrait de Syrie, il voyageait avec un vrai passeport suédois, le passeport d'un autre djihadiste, sans doute mort au combat. Et c'est vrai, j'ai eu entre les mains les photos des deux hommes, j'ai pu comparer, ils se ressemblaient plutôt, c'est certain.
Alors pour lutter contre cette technique du look-alike, il y a un moyen, Elodie, c'est la biométrie.
Et notamment la reconnaissance faciale, cette technologie de pointe est utilisée dans de nombreux pays, mais pas aux frontières extérieures de l'Europe. C'est pourtant une entreprise française, Morpho, qui est leader sur ce marché. Je me suis rendue dans ses locaux tout près de Paris.
Je vais vous inviter à passer dans le SAS. Vous allez présenter votre document donc dans le lecteur. Donc le système lit le document pour récupérer la photo. Vous pouvez déjà le retirer. Et le totem qui est ici, via les trois caméras, va capturer votre visage en même temps qu'il fait la lecture du document et va comparer votre visage en live contre la photo qui est dans la puce.
Ces contrôles biométriques, Elodie, que vous avez testés, seraient donc, du moins on peut l'imaginer, beaucoup plus fiables que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui dans nos aéroports.
Forcément, la présidente de la société Morpho, Anne Bouvreau, nous répond oui.
Si on regarde juste rapidement la photo et le porteur, on va dire, effectivement, ça ressemble. Si par contre, on lit la puce du passeport et qu'on compare avec des algorithmes de reconnaissance, les informations sur cette puce et la personne qui en face, au moyen d'une photo ou d'une capture par une caméra de smartphone, par exemple, on peut de manière très fiable dire c'est la même personne ou ça n'a vraiment pas l'air d'être la même personne. Et donc, ces algorithmes de reconnaissance de visage permettent d'ailleurs même de reconnaître des gens si la photo du passeport est ancienne ou si la personne a beaucoup changé d'apparence, y compris après de la chirurgie esthétique.
Une dernière interrogation, Elodie Guéguin. En matière d'utilisation de la biométrie, est-ce qu'il existe ou non un consensus européen ?
Alors en tout cas, la France y est favorable et depuis longtemps, elle essaye de convaincre ses partenaires européens. Un test a lieu en ce moment dans certains ports et aéroports. Cela dit, dès qu'il s'agit de biométrie, l'Europe freine des quatre fers. Elle redoute le phénomène Big Brother.
Merci beaucoup pour cette enquête, Elodie Guéguin, qui est à retrouver comme toutes nos enquêtes sur le site franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info, où vous pouvez, si ça vous intéresse, retrouver ces enquêtes également en vidéo.